Soleil d'un jour sur Radio Lac, c'est de 11h à midi, tous les dimanches avec Maurice Efti. Maurice, bonjour.
Bonjour.
Nous étions à Cholula dimanche dernier. Où partons-nous ce dimanche?
Ah, nous étions aussi un peu à Puebla. Nous allons continuer à Puebla et nous irons un peu à l'extérieur, du côté de Huehotzingo, voir un peu comment fonctionnent véritablement ces églises et ces couvents à l'extérieur de cette belle ville.
Maurice, nous sommes à Puebla, la ville espagnole. On y reste encore quelques minutes.
Quand vous dites quelques minutes, oui, parce que dimanche dernier, nous avons déjà un peu visité le Zocalo. Nous sommes entrés dans cette immense cathédrale qui est la deuxième du pays et qui a des proportions qui nous font penser que cette place a voulu, par la force d'un évêque, Juan de Palafox y Mendoza, être non seulement la plus blanche, mais certainement la place qui a, au Mexique, qui donne vraiment l'impression d'être la plus hispanique, la plus espagnole. On est en Espagne. Les bâtiments qui l'entourent, la forme même de la cathédrale. Par contre, quand je suis à Puebla, bon, on pense toujours, quand on dit Puebla, au 5 mai. Le 5 mai, c'est une date, c'est même une date majeure au Mexique, c'est une fête nationale. Il est vrai qu'au milieu du 19e siècle, il y a eu des combats extrêmement forts entre les États-Unis et le Mexique. Et là, à Puebla, il y a eu un moment extrêmement vif. Il y avait un général qui est très connu aux États-Unis, qui s'appelle Winfield Scott. Et Scott va s'emparer de la ville aux alentours de 1840. 47, je crois.
Et c'est la guerre à ce moment-là.
Comment ?
C'est la guerre.
C'est la guerre, et d'ailleurs, le Mexique va perdre la moitié de son territoire, parce que les États-Unis vont prendre tous les États que l'on connaît, c'est-à-dire la Californie, le Nouveau-Mexique, le Texas, enfin tous ces États qui sont en bordure du Mexique actuel.
Qui sont à l'origine mexicaine.
Bien sûr, et qui étaient totalement hispaniques aussi. Et bon, à charge de revanche, aujourd'hui, ça se ressent. Il y a plus de 12 millions de Mexicains de l'autre côté, et on parle espagnol un peu partout. Mm-hmm. Mais en l'occurrence, cette invasion va se concrétiser aux alentours du 5 mai 1862 par un général qui s'appelle Lawrence et qui commandait le corps expéditionnaire non plus américain mais alors là français, parce que les Français étaient là aussi. Et cette bataille il y aura une sorte de défaite de la part des Français parce qu'ils voulaient s'emparer des forts de Loreto et de Guadalupe qui se trouvent juste en dessus au sommet de la ville de Puebla. Il va être rejeté par un général qui est un général mexicain qui s'appelle Zaragoza. Et à partir de cette date, eh bien, je peux vous dire que c'est devenu une fête nationale parce que la ville va être assiégée plusieurs fois par les troupes françaises, mais désormais on va appeler cette ville non plus Puebla des Anges, Puebla de Los Angeles, mais Puebla de Zaragoza, et vous comprenez pourquoi, parce qu'en fait maintenant on peut déclarer que cette ville a su défendre son côté mexicain, et curieusement les Français sont très aimés. C'est-à-dire cette fête du 5 mai, c'est plutôt une fête où on montre qu'on aime beaucoup le côté francophone, on a toujours parlé français, il y a des alliances françaises partout, et à part le côté très espagnol de Puebla, on sent cette aristocratie qui fait plutôt penser à Paris et à Madrid qu'à Mexico. Et quand on pénètre dans la ville et qu'on sort un peu du Zocalo, il y a des lieux comme ça qui ont quelque chose de magique. Il faut pénétrer dans ces demeures coloniales, voir ces palais, visiter ces bibliothèques et surtout ces maisons qui sont parfois étranges. Elles ressemblent à des sucreries. Certaines ont des briques rouges avec des ornements qui ressemblent. Vous savez, ces sucres
blancs.
Non, pas les sucres d'orge. Ce qu'on fait pour les décorations de Noël, vous savez, avec du sucre blanc comme cela, une sorte de dentelle avec naturellement quelques petites pointes de couleur avec les azuleros, c'est-à-dire ces faïences émaillées un peu partout. Mais il y a une église que j'aime bien, elle est toute blanche, elle est dans un petit quartier encore plus colonial que les autres. On la voit très bien parce qu'elle a cette forme un petit peu baroque. C'est l'église de la compagnie de Jésus, bien sûr. Alors, elle était consacrée assez tard, au XVIIIe siècle, mais ce que j'aime bien, c'est que je crois qu'elle a été consacrée même exactement en 1767. Alors c'est une année importante, c'est l'année où l'on va exclure tous les jésuites de toutes les terres hispaniques, donc de toute l'Amérique bien sûr, mais également d'Espagne. Et finalement, c'est une façade qui est d'un style qui est tout à fait nouveau, mais qu'on voit fréquemment au Mexique, on en parlera peut-être encore tout à l'heure, c'est le style churrigueresque. Le churrigueresque vient du nom plutôt de l'architecte Churriguera, qui était, je crois, d'origine madrilène et à la fois portugaise, et qui a inventé le rococo espagnol. Alors quand je dis rococo, c'est vraiment
ce qu'on appelle le typico.
Quand vous dites typico, c'est vraiment de la crème rajoutée. Il y a vraiment des puissances de forme et de sculpture. Alors la coupole est de nouveau décorée de ces carreaux de faïence émaillés avec des sortes de damiers en blanc et en bleu. Mais c'est à l'intérieur. Dans la sacristie, il y a un endroit très curieux. Il y a toute une légende. On dit que c'est là qu'a été inhumée la China Poblana. China, ça veut bien dire la chinoise. Poblana de Puebla. Et c'était une femme, un personnage qui est rentré dans l'imagination populaire des gens de la région. région, c'était sûrement une princesse mongole ou peut-être hindoue, enfin on ne sait pas très bien, même si je l'appelle chinoise. En l'occurrence, elle aurait été capturée par des pirates. Alors là, ça nous remet à la belle époque d'Acapulco. Acapulco, qui était en fait le port le plus important. Elle aurait été vendue comme esclave. Elle serait arrivée aux alentours du XVIIe siècle sur un galion qui, lui, était parti, bien sûr, des Philippines. Parce que le contact avec l'Orient se faisait à travers le Mexique. Et il y a énormément de porcelaine, énormément d'habitudes. Je dirais même que ce qui est curieux, c'est que cette femme qui a été affranchie, qui va ensuite vivre à Puebla, aurait introduit un costume que l'on voit encore comme étant le costume de l'État de Puebla. C'est un énorme État qui va pratiquement jusqu'aux côtes.
Décrivez-moi le costume.
Ben, si vous voulez, c'est un costume extrêmement brodé, avec à la fois du brocart et des broderies en surface, quelque chose de très très chatoyant, robe longue naturellement, un peu décolleté. Ça a une certaine allure et c'est un costume qui va être porté par toutes les femmes de la région jusqu'au 19e siècle. Et cette mode va se répandre au Mexique, je pense, à cause de ce trafic commercial qui était noué avec l'Extrême-Orient et ce qu'on appelait la Nouvelle-Espagne à l'époque coloniale, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la Nao de China, c'est-à-dire, ou la Nao de Filipinas. C'est-à-dire cet Acapulco qui va permettre d'avoir des soieries, des merveilles d'Orient qui n'étaient pas connues et qui vont devenir assez à la mode comme cela. On imagine bien ce 18e robe longue dans ces rues de Puebla très hispanique, à la fois l'Orient, l'Espagne, les azulejos, une ambiance.
Est-ce que ce côté exubérant du XVIIIe siècle se retrouve du côté de Puebla, Maurice ?
Oh, je dirais même aux alentours, c'est-à-dire qu'il y a, il y a des centaines d'églises à visiter, mais quand je parlais de l'exubérance, c'était surtout ce mélange étrange qui va de l'indigène à l'exotisme de l'Orient, à cette forte impression espagnole. Et quand on visite cette ville, eh bien, je dirais qu'on a effectivement, dans certains lieux, des chocs qui correspondent à ce qu'on voit vraiment lorsqu'on pénètre dans une église. C'est-à-dire le vrai choc, c'est lorsqu'on tombe dans cet art churrigueresque et qu'on a vraiment sous les yeux quelque chose qui ressemble à du vrai baroque. Et là, je vous ferai remonter par exemple l'avenue piétonne et je vous permettrai tout à coup de vous retrouver devant cet ensemble qui a été restauré il y a quelques années, qui est celui de Saint-Dominique. Santo Domingo, c'est vraiment peut-être la fascination absolue du touriste lorsqu'il arrive à Puebla. Alors, vous avez une église qui est assez sobre en extérieur, bizarrement, et vous pénétrez à l'intérieur et il n'y a que de l'or. C'est-à-dire, vous avez un retable avec naturellement tous les saints qui entourent Saint-Dominique, il y a Saint-François, le retable, vous savez, c'est vraiment un découpage en carré, comme cela, en cadre, qui remplit tout l'espace au fond de l'hôtel. Mmh. Et puis, la vraie surprise, c'est quand vous arrivez au transept, c'est-à-dire vous finissez, vous arrivez à la travée, et que vous pénétrez dans une chapelle secondaire qui est naturellement pour les dominicains la chapelle du rosaire. Le rosaire a été inventé par Saint Dominique. C'est bien sûr celui qu'on égrène lorsqu'on est enfant et qu'on est vrai catholique. Et en l'occurrence, ces Ave Maria avaient dans les couvents et dans les églises dominicaines ce lieu un peu plus sacré encore, un peu plus fou encore, qu'est la chapelle consacrée à la Vierge. Alors cette Vierge du rosaire, elle est, vous l'apercevez dès que vous entrez, mais c'est surtout, vous avez le souffle absolument coupé. Il n'y a que de l'or, que des chérubins, qu'un ensemble. Vous êtes pris, vous ne regardez même plus, vous ne voyez même plus le squelette de la chapelle, tant il y a de formes sculptées, à la fois dans le bois et dans le stuc. Et au milieu, vous avez, un peu comme on l'aurait à Rome, au centre de Saint-Pierre, une fantastique partie qui, elle, est encore plus dorée, où à l'intérieur de laquelle il y a vraiment une vierge, comme une poupée Barbie, là, j'ose dire cela. Elle a une robe sublime, et elle a ce visage d'une blancheur, elle est rose, elle a ce côté poupon et totalement espagnol. Et autour, cet or qui est presque un or glacé, il a quelque chose d'un jaune extrêmement pâle, avec le blanc, avec le tout petit filet noir qui entoure chacune des arabesques, sont des reliefs qui sortent carrément du mur, parfois de 20 à 30 centimètres, et tout à coup vous êtes sous la lanterne et vous montez vers le ciel et vous avez Dieu le Père en haut avec une colombe. Enfin, c'est vraiment l'éclatement. Les yeux ne savent plus où regarder. On est non seulement ébloui, on est vraiment pris comme cela dans la masse de cette richesse.
Richesse totale.
Et ce baroque-là, c'est vraiment le message de « je peux faire plein » pour montrer que nous ne sommes pas vides. C'est-à-dire qu'on comprend exactement l'antithèse de la réforme qui a balayé presque toute l'Europe. L'Espagne reste très catholique. Et finalement, la contre-réforme, c'est bien cela. De dire que nous avons la plénitude et la richesse de cet art qui est exactement à l'antithèse de la simplification draconienne. On est bien placé dans la ville de Calvin, on est bien placé en Allemagne ou ailleurs pour savoir que lorsqu'on rentre dans une église réformée, luthérienne ou calviniste, il n'y a plus rien, tout a été enlevé. Et quand on arrive dans ces églises du 18e au Mexique, on se rend compte qu'il y a eu une énorme influence indienne aussi. L'Indien adore cette profusion. Le cerveau même de l'Indien est aussi confus, est aussi plein, est aussi rêveur, est aussi parallèle dans ses pensées et dans ses cauchemars autant que dans ses idées, disons, positives. On a l'impression qu'il faut une exubérance absolue. Et là, instantanément, spontanément, en pensant à cette église de Santo Domingo et à cette chapelle du Rosaire, j'aimerais vous envoyer à quelques kilomètres de Puebla et pénétrer dans la petite église de Santa Maria Tonantzintla, un nom qui est bien indien, mais là, alors, c'est un choc complètement inversé. Mmh. Il y a autant d'exubérance. Vous avez en rentrant l'impression d'être dans une véritable pâtisserie, mais qu'il y a quelque chose de charnel comme cela. Parce qu'il y a de la dorure, c'est vrai, mais il y a surtout de la couleur. Il y a du rouge, ces rouges cinabres, des bleus, des tons qui ont la chaleur de l'Indien. On se croirait sur la robe de la China Paulana de tout à l'heure. Hein. Tout a été peint, tout a été rempli. Et les chérubins qui avaient un côté un peu féroce, comme ça, un peu curieux, un peu blanc, un peu agressif au rosaire, là, ce sont les chérubins qui tout à coup vont porter des plumes sur la tête, ou vont se transformer en aztèques. Et puis, il y a partout des fruits, des grappes, des choses qui descendent de partout. Il y a l'agriculture, il y a toute la nature. C'est une véritable forêt vierge. La chaire, par exemple, de l'église voisine de Saint-François à Catepec, elle est aussi très indienne, mais il y a une patine, il y a une façon de composer tout cela. Et puis l'hôtel, alors, est riche de milliers de petites statuettes. On a l'impression que tout ce qui a pu être rempli et bouché l'a été. Avec toutes ces couleurs mélangées, ça crée une espèce d'harmonie. Santa Maria, j'y reviens, Santa Maria Tonantzintla, c'est peut-être le plus grand choc indien de la culture et de l'architecture avec un souffle indien, parce qu'on sent qu'on a laissé à l'Indien la possibilité de décorer. On a fait le squelette hispanique, on a fait le squelette chourigueresque, on a voulu une architecture européenne, et en fait, celui qui s'est défoulé, c'est l'Indien qui lui était le décorateur. On l'a laissé vraiment, là j'ose dire, s'éclater comme il en avait envie. Et c'est aussi Puebla, c'est l'autre Puebla, c'est la Puebla qui est plus proche de Cholula, qui est plus proche de ce côté indigène. Et je crois qu'il faut comme cela se balader d'un endroit à l'autre, il faut sortir un peu de l'ordinaire. Et j'ai envie même de vous arrêter pour quelques minutes dans un lieu qui m'a toujours profondément touché. C'est un petit village. Bon, vous rentrez, il y a quelques étals le long de la route, on vous vend des abricots au sirop, vous savez, des gros bocaux comme ça qui traînent dans la rue, il y a de l'alcool qui est fait de la même manière. C'est un endroit où il y a des pommes. N'oubliez pas qu'on est à plus de 2000 mètres d'altitude et on a l'impression de se retrouver dans les vergers d'Espagne. Hein. On a l'impression de retrouver cet air et cette fraîcheur et en même temps la végétation aux alentours. Il y a quelques cactus qui nous rappellent qu'on est au Mexique, mais finalement on a des arbres, on a un climat, une façon de vivre qui fait penser plutôt aux hautes terres d'Espagne. Et quand vous pénétrez dans ce village, vous dites, bon, il n'y a rien de particulier. Tout à coup, vous voyez une entrée, il y a une sorte d'atrium assez important, une croix sculptée en plein milieu. Vous sentez l'air qui souffle, c'est un air tiède, il y a des arbres partout. Et là, vous découvrez quelque chose d'assez fou, qui est typiquement mexicain, c'est que vous avez ce qu'on appelle des chapelles posas. Les chapelles posas, ce sont des chapelles qui sont en extérieur, aux quatre coins de l'atrium. Quand je dis atrium, c'est bien cette énorme place qui est devant le couvent ou l'église. Et là, il y a toujours des proportions complètement démesurées. Et quand on s'avance devant une de ces petites chapelles qui naturellement ponctue...
Une à chaque coin.
Oui, elle ponctue les quatre angles. Vous avez tout à coup, d'abord le cordon sans frein de Saint-François, franciscain, parce que Huehotzingo a été dédié à Saint-François. Et ce cordon, vous voyez qu'il est occupé par un tas d'objets secondaires. Par exemple, il y a des anges qui jouent avec une trompette, et de la trompette, vous voyez carrément des fleurs qui sortent, une sorte de végétation. Eh bien, ça a exactement la même forme que ce qu'on retrouve sur les vieux écrits, sur les vieux hiéroglyphes, sur les vieux livres de l'époque précolombienne. On sent que les Indiens ont laissé passer leur message indien également dans la sculpture de cet atrium. Et puis, je vous attends juste à l'entrée du couvent, parce qu'à l'intérieur, tout à coup, c'est grisaille, perfection, 12 apôtres, le début du missionariat. Vous êtes au tout début de ces années 1530, lorsque les premiers en 1524 ont touché la terre mexicaine pour évangéliser et construire d'un seul coup 2000 couvents dans un pays. Viaggio in fondo ai tuoi occhi, tra i delusi smammai. Viaggio in fondo ai tuoi occhi. So che ero tu nel mosso. Don't cry però. Poi colammo giù e miseri. No, guardammo il blu. I'm
solcherò un morso. Viaggio in fondo ai tuoi occhi. Solcherò, solcherò un morso.
Nous sommes à 200 km de Mexico. Situez-moi bien l'endroit, Maurice. Je vous l'avoue, je me sens un peu perdu. On est à Puebla et là, ouais. on a été visiter un petit village.
C'est assez simple, dans la mesure où vous êtes dans une immense plaine devant l'Itzacihuatl et le Popo, les deux grands volcans. Donc, vous êtes exactement de l'autre côté de Mexico City, qui est là-bas, dans sa propre vallée intérieure. Et depuis Puebla, il y a véritablement une ceinture de petits villages que j'évoquais. Je peux les reprendre en nom. C'est comme si vous étiez arrivé par la route de Mexico. Vous étiez arrêté d'abord à Cholula, qu'on a déjà visité, je crois, la dernière fois. Et Cholula, c'est de nombreuses églises. Et puis lorsque vous sortez, vous en apercevez dans chaque village une autre. Et là, maintenant, on vient d'entendre de l'italien. On était à Huehotzingo, on était vraiment chez saint François d'Assise. Et on comprend que ces ordres religieux qui sont arrivés sur place ont petit à petit ponctué toutes les régions les plus habitées. Et là, il y avait des milliers et des milliers d'Indiens qui vivaient dans cette fantastique vallée agricole fertile. Et en l'occurrence, de Huehotzingo, vous vous arrêtez ensuite à San Francisco, à Catepec, qui est un petit village avec cette église qui, elle, est en briques, avec de nouveau plein de couleurs à l'extérieur, la belle chair que j'évoquais. Un peu plus loin, 5 minutes après, vous vous arrêtez à Santa Maria Tonantzintla. L'église a l'air plus modeste en extérieur, elle est même assez moche. Et quand vous pénétrez à l'intérieur, il y a cette virtuosité du 18e qui est complètement indienne. Il y a une évolution depuis le 16e, bien sûr. L'explosion véritable, c'est le 18e. Alors, Huehotzingo, nous avons vu ces chapelles posas, nous avons vu cet atrium, ce vent qui souffle dans les pins et dans les ahuehuetes, ces arbres qui ressemblent à des peupliers avec de grandes baves.
Partout.
Oui, vraiment. Et quand vous pénétrez dans l'église, il y a d'abord la qualité de la nef, qui est quelque chose d'assez curieux, parce que là, on est vraiment au tout début du XVIe siècle. Donc, c'est encore une architecture moyenâgeuse. On est encore dans de l'art qui ressemble au gothique. Et dans un pays à tremblement de terre, on est toujours impressionné par l'immensité de ces voûtes à nervures qui existent encore aujourd'hui. Et il y a encore des grisailles sur les murs. Quand je dis grisailles, c'est peintures du début qui reprenaient un peu comme dans la gravure, parce que les seules choses qui pouvaient traverser avec les caravelles, on ne pouvait pas prendre de grandes toiles, on ne pouvait pas prendre de grandes statues, mais on venait avec des... Il y avait énormément d'ailleurs au début. Si je parle des 12 premiers qui sont arrivés au Mexique tout à l'heure, les 12 premiers franciscains, on est étonné de voir leur nationalité. Il y en a certains qui viennent effectivement d'Italie, il y en a qui vivaient déjà en Espagne, et l'ordre est déjà très présent en Espagne depuis les années 1200. Il est parallèle pratiquement à l'ordre des dominicains, qui est beaucoup plus militaire et qui sont des gens qui sont restés plus nobles. Vous rappelez tout à l'heure la dorure du rosaire à Puebla. On a l'impression vraiment qu'on a un petit rien de non seulement de bourgeois, mais justement d'aristocrate. Et puis là, chez les franciscains, au contraire, ce sont les frères des pauvres. C'est bien le pazzo, le fou de Dieu de l'Italie, qui a su essaimer dans le monde cette idée d'un paradis, du millénarisme, de ces 1000 ans absolument fous qui précéderaient l'Apocalypse. Et c'est pour cela qu'ils sont partis les premiers au Mexique. Alors je dis les 12 premiers parce que il y a eu des Italiens, il y a eu des Espagnols, mais il y a aussi eu des Flamands. Il y a aussi des gens qui connaissaient l'art et qui connaissaient l'architecture. Et finalement, quand on a pénétré dans l'église et qu'on a visité ce côté très froid, comme ça, et un peu gothique, on glisse ensuite dans le côté conventuel. Alors là, on est très surpris. Il y a une salle qui m'a toujours bouleversé. Chaque fois que j'y rentre, je ressens la même chose. C'est la salle du De Profundis. C'est l'endroit où l'on mettait, bien sûr, le cadavre d'un moine ou de quelqu'un qui était mort dans le couvent. Et là, autour de vous, vous êtes complètement en Europe avec ces peintures qui sont une en noir et blanc. Mais vous avez vraiment l'impression de voir une petite gravure de 20 ou 30 cm de côté que vous auriez mis dans votre bagage, dans votre besace pour venir sur votre caravelle, qui tout à coup est développée sur tout le mur. Alors, voir tout à coup Saint-Antoine de Padoue, de voir Saint-Bonaventure, de voir ces grands saints qui tournent autour de Saint-François, de voir les 12 premiers que j'évoquais, avec leur nom écrit dessous, avec la croix au centre, on a l'impression de quelque chose d'apôtre de l'évangile, de ces gens qui sont à pieds nus, qui sont en sandales et qui vont conquérir le monde. C'est vrai que c'est fou de penser qu'entre les franciscains, les augustins, ensuite les dominicains, les jésuites arrivent beaucoup plus tard, ils arrivent à la fin du XVIe siècle, mais tous ceux qui sont arrivés au début, et d'abord les franciscains, quand j'évoque comme ça 2000 constructions, c'est de la folie furieuse. Sur quelques millions d'Indiens qui sont là, qui vont servir de main d'œuvre, bien sûr. On va ponctuer tout ce qui ressemble à une communauté ou à un endroit sacré de l'époque indienne pour en faire une église, un couvent et avoir un maximum de gens à l'intérieur, produire véritablement des moines, des frères, des prêtres qui sont naturellement d'origine métisse ou indienne, mais d'abord 12 hommes seuls, 12 blancs qui débarquent comme ça et qui ont devant eux la moitié du monde.
Et les pré-colombiens n'avaient pas laissé des traces ?
Dans ces constructions, dans ces formules, oui. Ou en quoi l'entendez-vous ?
Si les pré-colombiens avaient laissé des traces et que la religion
a passé et
a tout balayé.
C'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure, vous avez entièrement raison. Les trompettes de tout à l'heure avec ces fleurs et ces symboles et cette écriture précolombienne nous prouvent bien qu'il y a des tailleurs de pierre indiens. Mm-hmm. Mais quand vous rentrez à l'intérieur du couvent de Huehotzingo, c'est la rigueur du XVIe siècle, c'est ce côté moyenâgeux, c'est cette gravure très précise, c'est le fait que ce soit vraiment des Européens qui tiennent cela en main et qui veulent imprimer une image nouvelle. Et puis tout à l'heure, quand j'étais au 18e dans l'exubérance indienne, c'est vraiment eux qui vont pouvoir laisser aller cet éclatement personnalisé et très indien. C'est une question qui est importante parce que si je prends un site comme Huehotzingo, il faut quand même savoir que c'est un lieu assez curieux. Tiens, je vais vous raconter une histoire qui correspond à cette communauté, ou plutôt à cette petite seigneurie. C'est un peu comme chez nous à l'époque féodale. Les Aztèques sont à Mexico, ils commandent le tout. Et là, par exemple, à Huehotzingo, il y avait un tout petit royaume qui était complètement séparé de Mexico City, de Mexico Tenochtitlan, devrais-je dire. Et en l'occurrence, on se faisait des guerres particulières qui sont des guerres fleuries. C'est-à-dire qu'on allait se combattre sur des terrains neutres et puis on prenait des prisonniers d'un côté et des prisonniers de l'autre. Mais Huehotzingo était une seigneurie et un endroit tout à fait précolombien. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que les franciscains vont imposer un couvent aussi monstrueux, aussi extraordinaire, peut-être le plus beau de tout le Mexique au XVIe siècle, parce que là, il y avait quelque chose de fort, parce que, comme vous l'avez dit, il y avait quelque chose d'indien. Donc il faut imprimer le sceau européen, le sceau chrétien de façon absolue.
Don't know what I will find. I only
Maurice, comment ces 12 moines arrivaient à se défendre et à s'imposer par rapport à ces millions et ces millions d'Indiens?
Ça, c'est toujours impressionnant, parce qu'il y a la foi, bien sûr, mais il y a aussi l'absolue sécurité du franciscain, qui est un frère des pauvres et qui va immédiatement dialoguer avec l'Indien. Or, quand votre question est judicieuse, parce que quand on voit ces premières constructions du XVIe siècle, là, vous êtes, on est dans cette température idéale à 2100 mètres d'altitude, on vient de passer par cette route qui va de Cholula au Huehuetenango, entre deux rangées de eucalyptus, on a une impression de luxe, je dirais de luxe par rapport à la campagne. Donc il y avait beaucoup d'indigènes et de paysans, et en l'occurrence, quand on va construire ce premier couvent impressionnant, l'église elle-même n'est pas du tout une église comme on l'imagine dans sa tête. C'est une église qui ressemble véritablement à ces forteresses qu'on avait en Castille. Essayez de voir cette voûte que j'évoquais avec cette nef et ces arcatures gothiques. Eh bien, autour, lorsque vous voyez l'extérieur, eh bien, ça ressemble plutôt à un vaisseau complètement bloqué, avec ses merlons, avec ses créneaux carrément sur le sommet. Et de l'extérieur, ça ressemble plutôt à un château fort, véritablement. Donc, il y a l'idée de la puissance, il y a l'idée du Moyen-Âge, de la féodalité. On exporte pratiquement le style qu'on a utilisé quelques années avant, c'est-à-dire 1492, c'est la découverte de l'Amérique, mais c'est aussi la fin de la guerre contre l'islam. Et finalement, on retrouve exactement cette même impression d'être parmi des infidèles et de devoir obligatoirement transformer un continent qu'on vient de découvrir pour en faire un continent chrétien.
Il fallait les convertir, ces Indiens.
Alors ça, c'est intéressant aussi, parce que dans le même lieu où nous sommes, à Huehuetenango, j'ai parlé tout à l'heure de l'atrium. Et quand on a pénétré dans cet immense atrium, qui ressemble à un parc aujourd'hui géant, on s'est baladé comme cela sur la bordure pour voir ces chapelles que j'ai appelées des chapelles posas. Et dans ces chapelles, il y avait des hôtels qui servaient naturellement aux services religieux. Je vous ai parlé de ces cordons franciscains qui entourent la forme pyramidale supérieure, avec ce relief, avec ces anges, avec ses musiciens, etc. Eh bien, à l'intérieur, le prêtre pouvait donner la messe en public. Et là, vous me suivez, si l'atrium est si grand, c'est parce que sur cette place, il y avait 4 prêtres qui fonctionnaient en même temps, et que sur la place, vous aviez 10, 20, 30, 40 000 Indiens qui, eux, n'étaient pas baptisés. Donc, c'était les endroits où l'on faisait le catéchisme. Donc, les Indiens venaient écouter ces prêtres, voir... C'est un peu comme ils allaient devant une pyramide, parce que Huehuetenango était un centre religieux, était un centre guerrier. Je l'évoquais pour la guerre avec Mexico, Tenochtitlan et la Triple Alliance tout à l'heure. Eh bien, ici, les Indiens, tout à coup, se sont dit, bah, tiens, il y a quelque chose de nouveau. On a détruit une pyramide. À la place, on a mis un couvent, on a mis cette forteresse. On sait qu'il y a des gens qui vivent là-dedans.
Donc, aucune interrogation de leur part.
Ben non, parce que le changement au départ s'est fait de façon assez souple, et puis ce qu'on leur offrait était assez semblable à ce qu'ils avaient vécu sur le plan religieux. On a fait beaucoup de collages, les franciscans étaient les premiers ethnographes, et on a déjà évoqué les grands collèges de Mexico, on a évoqué cette mémoire que les franciscains ont tenté d'obtenir sur papier afin de créer une théologie indienne. Mmh. Et ils ont véritablement... Le Mexique a servi, si vous voulez, de début du catéchisme pour toute l'Amérique. C'est-à-dire tout ce qu'on a appris au Mexique sur les Aztèques ou sur les tribus qui fonctionnait à ce moment-là, eh bien, on aura des ethnographes qui vont étudier ça pendant 10 ou 20 ans. Ils vont jouer à des prêches et à des formules qui sont en fonction de leur système indien, du système indien. Et à partir de là, c'est exporté au Guatemala, c'est exporté au Pérou. Au Pérou, on ne sait rien des Incas, tout simplement parce qu'on a utilisé les méthodes mexicaines. On avait trouvé le truc et il a fonctionné dans toute l'Amérique. Et ces chapelles posas que j'évoquais pour le catéchisme, eh bien, à l'instant où l'Indien est enfin baptisé, c'est à ce moment-là qu'il pourra pénétrer dans l'Église, mais pas avant. Naturellement, il faut être baptisé pour avoir une communion normale et pouvoir pénétrer dans le Saint des Saints. Alors, il y avait toute une forme théâtrale, et les chapelles posas, ces atriums, certains atriums au Mexique sont plus grands, voire presque aussi importants que celui de Saint-Pierre à Rome. Donc, c'était vraiment des lieux qu'on transformait en lieux de fête et de pèlerinage, avec ce côté enseignement. Et finalement, on arrivait comme cela à baptiser 10, 20, 30 000 personnes à la fois quand on le voulait. Et ces millions d'Indiens ont été convertis de cette manière. C'était vraiment... une sorte d'appel presque public. Et les franciscains avaient un courage qui était assez renversant. Je dirais que c'est peut-être ceux que j'admire le plus par rapport à ce système-là, parce qu'en même temps, il y avait une grande compréhension du mode indien. Ils se sont intéressés aux Indiens pour faire une transformation sur l'Indien. Je ne dis pas qu'elle est positive, mais au moins le cheminement était logique. Mmh. Ceux qui sont venus après, les Augustins, étaient un peu différents, mais les Dominicains ont gardé une certaine distance par leur ordre un peu guerrier et chevalier. Et puis les Jésuites, alors, sont rentrés carrément dans la nouvelle formule. J'entends par là qu'ils arrivent déjà avec les vice-rois, ils arrivent déjà avec une noblesse, carrément une aristocratie et une oligarchie qui avait pris place au Mexique. Donc eux restent riches, restent dorés, et souvent ils essayent simplement de mettre l'église, leur église, le plus près possible de la cathédrale. Ils font vraiment partie du pouvoir. Énorme différence. Campagne, ville, lieu de pouvoir, politique, les franciscains sont là, dans cette campagne et dans cette agriculture, près de l'Indien, près de celui qui vivait vraiment à l'extérieur des grandes zones urbaines.
Do you know what the world is gonna do? Or if we can get off now? The road that we're on. This hate in my brother's eye, but as the time goes by, I get harder. They say we learn by our mistakes and then we carry on. Sometimes I'm not sure, sometimes I'm not sure. There's no brakes on this car as it rolls down the hill. My muscles are straining now, foot through the floor. Perhaps that's why, perhaps that's why I see the dolphin, it makes me cry. As I look in your eye, as I look in your eye, as the time goes by, makes me cry. Whoa. Don't wanna go to school anymore today, 'cause history, she keeps on and on repeating herself. She can't forgive, she just licks all of her wounds. Sore is the day, and sore is the night. Perhaps that's why, perhaps that's why I see the dolphin makes me cry. As I look in your eyes, I look in your eyes, as the time goes by, makes me cry. Whoa. When I was a boy, when I was growing up, I remember life was so simple, life was so sweet. And it makes me cry. As I look in your eye, as I look in your eye, as the time goes by, makes me cry. Perhaps that's why I see the dolphin, and it makes me cry. As I look in your eye, as I look in your eye, as the time goes by. Ever touch the loneliness of a broken man? Did you see a starving child die? Do we really do these things to one another? Do you see why dolphins make
On a bien senti la différence entre la campagne et la ville, Maurice. On retourne à Puebla. Est-ce que les franciscains étaient à l'époque à Puebla ?
Disons que Puebla étant très hispanique, très espagnol, les franciscains se trouvent à Puebla, bien sûr, mais on a l'impression que c'est un jardin extérieur. Ils sont d'ailleurs sur l'avenue du 5 mai, celle qui va nous permettre de monter jusqu'au fort de Loreto, qu'on évoquait tout à l'heure, sur la colline. On a l'impression qu'au début de la naissance de Puebla, c'était encore un peu la campagne, c'était un peu la banlieue. Or, si je prends quelques églises de Puebla, et il y en a beaucoup, eh bien on voit que plus on va vers le centre, plus on arrive près des ordres riches, des ordres nobles, des ordres bourgeois. En l'occurrence, que vous soyez à San José, à la Concepción, à San Agustín, à l'église de Guadalupe, que vous soyez devant le temple de Belém, c'est seulement quand vous arrivez justement devant Santo Domingo, les Dominicains, quand vous arrivez devant celle des Jésuites, elle est tout près de la cathédrale, on se rapproche vraiment du cœur et du pouvoir, et c'est intéressant. Il y a par exemple un petit couvent que j'aime bien évoquer lorsque je visite Puebla, et que j'aime bien aller revisiter, c'est celui de Santa Monica. Alors c'est une autre époque de ce Mexique, nous ne l'avons pas beaucoup évoqué, c'est le fait que d'abord, tous ces couvents, il y en a eu beaucoup pour les femmes, il y avait Santa Rosa aussi qui existe. Santa Monica, c'est quelque chose qui était fondé dans les années 1600, et finalement ça a été reconstruit un peu plus tard, on en a fait un collège au début du 18e siècle, et il y a eu des lois qui sont arrivées beaucoup plus tard. Je vais reprendre juste un moment. En 1857, on a fait au Mexique ce qu'on appelle la réforme. Rappelez-vous, ou essayez d'imaginer l'indépendance, la coupure avec l'Espagne a lieu en 1810, et elle devient véritable au milieu du 19e. Je veux dire par là qu'alors tout est coupé, et la réforme, c'est quelque chose qui devient très laïque, c'est qu'on va décider au Mexique à partir de 1857, et c'est la première fois que ça existe depuis le 16e siècle, de fermer toutes les églises, de fermer tous les couvents, et finalement les nonnes, eh bien, elles ont été expulsées, et il n'y a plus de moines, il n'y a plus de nonnes, et ils se trouvent tous à la rue, et bien là, à Santa Monica, elles reviennent chaque fois. Elles sont expulsées, elles reviennent. Elles réussissent à se maintenir. Bon, il y a la complicité des voisins, il y a la complicité des gens du quartier qui aimeraient bien garder ces gens-là. Et à l'insu, elles vont transformer carrément ce couvent en un lieu complètement secret. On a d'ailleurs aujourd'hui toutes les collections, ça paraît fou, mais on a les collections dans ce couvent de Santa Monica qui ont été prélevées dans tous les monastères clandestins de Puebla. Parce qu'il y en a eu beaucoup.
Il y avait des monastères clandestins.
Complètement clandestins. Mmh. C'est-à-dire que si je prends par exemple le fait de visiter Santa Monica, eh bien vous allez pénétrer par une porte tout à fait normale, comme si on rentrait dans une maison normale dans la rue, et puis à l'intérieur...
Porte dérobée.
Non, c'est une porte normale. Là, c'est comme si vous rentriez chez un habitant. Mmh. Et puis quand vous êtes chez l'habitant, vous trouvez un placard. Et vous rentrez...
La porte dérobée.
Mais oui, ça c'est celle-là.
D'accord.
C'est, vous ouvrez la porte du placard et vous rentrez dans le couvent. Alors ça existe toujours, on le visite toujours comme ça, c'est assez fou. Et en l'occurrence, il y a même à l'intérieur du couvent une porte qui est dissimulée de nouveau et qui donne accès à une église. Donc on a l'impression de l'extérieur que l'église était morte et qu'elle était fermée. Et au contraire, elle était consacrée quelques années avant et finalement on pouvait encore l'utiliser. Et d'ailleurs, les cryptes d'aujourd'hui sont complètement transformées en ossuaire parce que les petites nonnes, elles mouraient aussi. Mmh. Il fallait les enterrer à quelque part. Alors, ce qui est intéressant à visiter, il y a un patio qui est absolument fantastique avec une végétation exubérante. Il fallait aussi avoir cet univers de vie hein, pour ces femmes qui étaient complètement... Alors, plus cloîtrées que ça, c'était difficile puisqu'elles devaient sortir par un placard de temps à autre pour aller faire un peu d'achat. Et le cloître principal est très, très beau aussi. Il y a toujours des azulejos, mais ce que j'aime bien visiter, c'est la cuisine. La cuisine de cet endroit-là, c'est vraiment ce qui évoque le mieux Puebla. Une cuisine avec des centaines de petites jarres de terre pour préparer sur le feu, avec des céramiques un peu partout. Et c'est là qu'on a dû inventer peut-être la meilleure chose de Puebla. Je ne sais pas si vous aimez la cuisine, mais le mole poblano, c'est une sauce brune avec du chocolat assez acre. On dit que ce sont
avec du chocolat.
Oui, c'est du cacao,
toujours le fameux cacao
amer, hein, mm-hmm. amer, avec des piments. C'est une sauce vraiment brune qu'on nappe comme cela sur de la dinde ou du poulet. C'est assez piquant, il faut l'avouer. Alors on prétend que c'était une recette qui avait été inventée parce qu'on n'avait pas prévu l'arrivée d'un évêque. Enfin, il y a tout un tas de légendes là autour. Alors les nonnes auraient pris tout ce qu'elles trouvaient, tous les piments qui traînaient encore dans la maison, dans le patio d'à côté, etc. Elles ont mélangé tout cela, elles ont mis du cacao amer, quelques amandes, un petit rien de graines en surface pour la décoration. On aurait servi cela. C'est ainsi qu'est né peut-être le plat le plus populaire du Mexique, le mole poblano. On peut se souhaiter un bon appétit, mais on imagine aussi ces femmes cloîtrées, cet univers un peu clos. C'est l'Espagne profonde. Il y a même, vous sentez l'odeur, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est blanc, c'est européen, ça ne ressemble à rien de ce qu'on peut trouver ailleurs au Mexique.
On se retrouve dimanche prochain, Maurice.